Moi, je suis née à Niort. On a passé quelques petites années dans la ville de Niort, dans une petite maison de ville. Et quand j'ai eu 7 ans, mes parents se sont dit, bon, voilà, la ville, ça suffit, on va retrouver la campagne. Et ils avaient vraiment envie de nous offrir une éducation dans la nature, une éducation pas du tout. Enfin, on est allé à l'école tout à fait normalement. On n'a pas fait du tout l'école à la maison, mais. Il voulait qu'il y ait des cours naturels supplémentaires qui se passaient dans les prés, dans les champs. Et évidemment, nous, gamines, ma sœur et moi, on n'en était pas conscientes. On est juste passé d'une petite maison de ville à une maison immense, en ruine, un terrain immense et qu'il fallait voilà, investir, retaper. C'était un chantier. On a creusé des trous énormes pour planter des arbres. J'ai vu mes parents greffer des arbres, faire des boutures. Et j'ai observé ce travail-là. Et je sais que pour mes parents, il était important de les voir au travail. Ça, je sais que mon père me l'a souvent dit. Mes parents ne nous donnaient pas des cours, ne me donnaient pas des cours de jardinage dans le jardin. C'était pas du tout l'école à la maison, hein, l'école buissonnière à la maison. Mais ils savaient que j'observais. Et j'ai participé aussi, gamine, voilà. Là, je vais retaper des murs avec mon père, c'est rigolo à faire.
Oui, vous écrivez, la campagne est une ludothèque qui s'ignore. Hein. C'est-à-dire que vos activités étaient réalisées intramuros, en fait. Vous sortiez assez peu. C'était un terrain de jeu.
C'était un terrain de jeu formidable quand je suis arrivée dans cette grande ferme. Ce qui m'a frappée au début, c'était la pierre. Ça, je le raconte dans la bande dessinée. J'ai pas vu tout de suite les arbres, la verdure. J'ai vu la pierre, la terre, la poussière. Avec ma sœur, on a farfouillé dans la terre très vite et dans les pierres. Et dans les pierres, on trouve des fossiles, on trouve des coquilles Saint-Jacques extraordinaires qui sont vieilles de plusieurs millions d'années. On trouve des fers à cheval. On trouve parfois un bijou qui a été laissé par une dame dans les années, alors on pouvait imaginer que c'était Mélusine, mais bon, je pense que c'était une dame qui avait paumé sa bague en laiton, je sais pas quoi, dans les années 50, mais tout nous faisait rêver. Et on trouvait ça dans les pierres, dans la terre, dans le fumier, dans la basse-cour, entre
ce les qui vous a permis de créer un musée dans la maison avec votre sœur d'ailleurs.
Exactement, on a créé un petit musée comme Pierre Loti. Enfin, j'ai découvert plus tard que Pierre Loti avait fait exactement la même chose que nous à notre âge, et j'ai adoré faire ça enfant. Mais dans ce livre, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai aimé ça? Qu'est-ce que c'est que cette nostalgie? En fin de compte, c'est celle de mes parents. J'explique dans la bande dessinée qu'eux-mêmes, enfants, ont eu un chagrin, ont vécu un déchirement, ce qui est évidemment la perte de la maison d'enfance. On est nombreux à connaître ça. Et ils avaient en eux ce chagrin-là, et ils nous l'ont transmis sans faire attention. C'est comme ça en général. Les parents transmettent des choses inconsciemment à leurs enfants. Et j'ai aimé cette nostalgie. Je la regarde avec beaucoup de tendresse dans mon livre, mais je m'en détache aussi. Je prends mes distances avec elle en réalisant cette bande dessinée.
En nous plongeant dans la France des années 80, avec ses lotissements, ses monocultures, son utilisation intensive de Roundup. Mais vous, Catherine Meurice, comment avez-vous vécu ce décalage, peut-être, entre l'esprit éclairé de vos parents et ce qui était très à la mode à l'époque? Est-ce que vous le ressentiez, ce décalage?
Oui, je le ressentais et je l'ai vécu de manière assez comique, parce que mes parents critiquaient beaucoup la défiguration de la campagne. Oui. Eux-mêmes l'avaient vu dans leur enfance. Hein,
ils râlent beaucoup.
Hein. Oui, ils râlent beaucoup, mais avec humour aussi. Et je crois qu'ils m'ont aidé à me forger un esprit critique. C'est pas pour rien après que j'ai atterri à Charlie Hebdo, je crois. Là, j'ai trouvé mon bonheur quand j'avais 20 ans. Mais je regardais ça avec horreur et avec amusement. C'est-à-dire que pour ne pas être complètement atterré, effondré par la connerie, par exemple, du remembrement, de l'épandage, etc. Parce que c'est quand même extrêmement violent, hein, de voir ça, de voir la campagne qui change, les champs qui sont verts, qui deviennent oranges et qui sentent la chimie, on se demande pourquoi. Enfin bon, bah, je tournais ça en dérision et on tournait ça en dérision dans la famille, et c'est ce qui nous a sauvés, je pense. C'est vraiment de faire des blagues sur la laideur. On y vivait très bien tout ce qui se passait à l'école, les sorties scolaires, etc. C'est juste que j'avais un esprit critique qui venait d'eux et que j'arrivais à voir ce qui pouvait clocher dans certaines sorties scolaires.
Type le futuroscope.
Voilà, le futuroscope, c'est beau, on va aller visiter l'avenir, c'est formidable. Le futuroscope venait de sortir de terre, c'était ce feu Monory qu'il avait créé. C'était la modernité, Monory, bien sûr, hein, ça se lit sur son costume. Voilà, donc j'étais allée au futuroscope, j'avais rêvé, sans doute comme mes copains et copines, devant ces images incroyables. Et puis en même temps, je m'étais un peu emmerdée, parce que bah, on me proposait du rêve sur un plateau, puis bah, non, ça marchait pas tant que ça, quoi. Je crois que j'aimais autant aller chercher ou créer du rêve moi-même en allant à la fois à l'école, écouter mes amis, regarder la nature, des arbres, etc. Mais j'avais pas besoin forcément d'un parc d'attractions. Disons que j'allais picorer à droite à gauche les choses qui pouvaient me constituer. Et voilà, les Futuroscopes, j'en ai fait quelque chose finalement, puis ils se retrouvent dans la bande dessinée. Voilà.